Vous écoutez France Culture.
Marine Le Pen.
J'ai un vrai problème là, parce que vous n'avez pas lu le programme.
Ah si, si,
je l'ai lu. Je vais vous en donner une démonstration immédiate. Vous dites une augmentation de 200 euros des salaires et que ça allait asphyxier les PME. Vous vous trompez totalement. Vous n'avez pas lu le programme, car il ne s'agit pas d'une augmentation du SMIC. Il s'agit de la prise en charge par l'État de la part salariale des cotisations sociales. Ça veut dire que les PME et les PMI ne verront pas augmenter d'un euro ce
Donc
que ça leur coûte.
Donc ça vient des caisses de l'État, alors.
Exactement, monsieur. Ça veut dire que vous n'avez pas lu le programme. Et cette dépense nécessaire pour relancer, encore une fois, le pouvoir d'achat, parce que donner 200 euros à tous les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC, augmenter de 200 euros net, c'est exactement ce que les Français pensent. Ils pensent qu'en dessous de 1500 euros, ils n'arrivent pas à vivre, vous voyez. Et moi, je pense comme eux. Je pense qu'il est très difficile de vivre avec le SMIC aujourd'hui. Or, ça n'entraîne pas un euro de plus de charges pour les entreprises. C'est bien ça, d'ailleurs, l'intelligence, à mon sens, de ce programme. Et c'est compensé, c'est financé par une cotisation sociale à l'importation de 3%.
Mais moi, j'ai fait le calcul, il manque 25 milliards.
Madame, je ne le crois pas. Car vous ne calculez pas dans cela la dynamique économique. Je sais que vous faites des livres, mais l'économie, c'est un organisme vivant. Ça veut dire que lorsque on donne du pouvoir d'achat, il y a déjà 20% qui reviennent par l'intermédiaire de la TVA, surtout si c'est donné à des petits salaires. Et vous le savez bien, car les petits salaires quasiment dépensent l'intégralité dans la consommation. Voilà par exemple le type d'erreurs qui sont régulièrement commises. Vous dites, vous défendez les petits contre les gros. Comment allez-vous faire, dites-vous? Simplement par une fiscalité progressive, celle qu'avait promise effectivement François Hollande.
Mais ils l'ont fait. Non, vous vouliez une tranche à 46, ils ont une tranche à 45.
La fiscalité des entreprises, l'IS que nous avons proposé effectivement de baisser pour les PME-PMI avec trois tranches, 15, 25, 33%, alors qu'aujourd'hui, les grosses multinationales payent en moyenne, vous le savez, 8% d'impôts. Alors que les PME-PMI payent plein pot, ce que je trouve être profondément injuste. Donc c'était une mesure de justice à l'égard des PME-PMI, dont je vous rappelle quand même qu'ils sont les grands pourvoyeurs d'emplois dans notre pays. Ce ne sont pas les multinationales qui créent les emplois. Ce sont les TPE, les PME et les PMI. Vous dites ultra-étatiste. Ah bon, mais De Gaulle était ultra-étatiste, alors. Parce que le fait d'avoir un État stratège, en quoi est-ce ultra-étatiste? Le fait de dire qu'il existe des domaines dans l'économie française qui sont des domaines qui touchent à l'indépendance de notre pays et que dans ces conditions, l'État doit se donner la possibilité d'intervenir s'il pense que des pans de notre économie qui sont essentiels à notre liberté, à notre indépendance, vont passer éventuellement sous contrôle soit d'entreprises étrangères, soit dépendre de manière trop importante des importations. Mais ça, c'est une vision absolument souverainiste. Et c'est exactement la vision qu'avait le général de Gaulle. Et, excusez-moi, un mot. Sur les nationalisations des banques, vous dites, vous voulez nationaliser les banques. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je veux la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Et que si les banques, effectivement, d'affaires tombent, eh bien, elles tombent et elles seront gérées comme des entreprises qui font faillite de manière parfaitement naturel. Et que s'il faut passer, en cas de crise financière grave, par la nationalisation temporaire des banques, alors moi je veux bien que vous me disiez que ce soit un programme gauchiste, alors à ce moment-là, le gouvernement anglais est gauchiste. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont nationalisé leurs banques, parce qu'à un moment donné, ils ont considéré que la protection des déposants était une priorité. Voilà. Alors moi je veux bien, si vous voulez, que tout consiste à ridiculiser le programme ou à le caricaturer. Mais la réalité, c'est que ça n'est pas en usant de moyens déloyaux que l'on peut créer un vrai débat. Alors, madame, vous avez des opinions très claires, très tranchées, semble-t-il. Vous avez été, je crois, vous avez dirigé le Centre d'études prospectives et d'information internationale.
Le CEPI.
Je ne crois pas avoir vu votre nom dans la liste assez courte, il faut bien le dire, de ceux qui ont prévu la crise financière de 2008. Mais vous y trouverez le mien, madame. Car le Front National a fait une conférence de presse en juin, où il a annoncé, lui, la crise financière qui arrivait. Vous voyez que probablement, nos experts ont une compétence plus large que l'immense majorité.
Être expert n'est pas être astrologue, c'est pas un métier de voyant non plus.
Ah oui, mais voyez, écoutez, comment se fait-il que nous, nous l'avons vu? Comment se fait-il que nous, nous l'avons prévu?
Parce que vous êtes extra lucide, sans doute.
Non, mais peut-être parce que nous avons des experts qui n'ont pas des œillères et qui ne sont pas dans le conformisme économique.
Je voudrais vous poser une question, je ne suis pas économiste, donc je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là. Je vois que vous avez l'air de bien connaître vos dossiers, mais tout de même, en revanche, je voudrais savoir comment, au fond, vous êtes passé laisser, en revanche, Front National, sur cette philosophie-là d'un État fort, dans, au fond, le souvenir et le sillage d'un général de Gaulle, tandis que le Front National, à une époque, on se souvient de votre père, qui était plutôt un libéral réganien, qui réclamait dans les années 86 une économie française plutôt très libérale. C'est savoir comment s'est opérée la mutation et de passer comme ça d'un libéralisme réganien des années 80 à quelque chose qui est, comme vous le dites, souvenirisme.
Ce n'est pas nous qui avons changé, c'est le contexte. Tout simplement.
Ah, votre père,
quel
aujourd'hui,
était
serait
le danger,
comme vous, alors, économiquement
le
parlant.
Oui, je crois, oui.
Ah, il est devenu aussi, alors, du coup...
Mais oui, monsieur, parce que... Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que, dans les années 80, le danger, ça n'était pas un excès de libéralisme, c'était un excès de socialisme et de communisme. C'était ça, le danger. Par conséquent, se positionner face au danger de l'excès de socialisme et de communisme, c'était...
En 86, ça, déjà, ça n'allait plus très fort, déjà, pour le communisme. Hein, vous savez, trois ans après, le mur tombé,
oui.
La perestroïka...
Oui, enfin, avant que le mur tombe, permettez-moi que ça se portait encore relativement bien, quand même. Bon,
oui, mais pas dans les années 80.
Voilà. Aujourd'hui, le danger, c'est l'excès du libéralisme qui est aggravé par l'effacement total des frontières, par la financiarisation généralisée de l'économie et par cette espèce de nouveau totalitarisme qui considère qu'il ne faut mettre aucun obstacle au commerce, pas pour protéger l'intérêt des plus faibles, l'intérêt des plus modestes, l'intérêt des entreprises patriotiques, etc.
Excusez-moi, mais comment comprendre dans ce cas-là l'hommage que vous avez rendu à Margaret Thatcher, qui quand même est justement l'archétype même de ce libéralisme-là?
Parce que, monsieur, ça n'est pas le programme économique de Madame Thatcher que j'ai salué. Et je crois que mon communiqué était très clair, c'est son patriotisme. Moi, je respecte tous ceux qui défendent l'intérêt de leur pays. Et vous voyez, je pourrais faire le même compliment à Madame Merkel. Et pourtant, je ne partage absolument pas son analyse. Sauf que je remarque que Madame Merkel, en Allemagne, défend les intérêts de l'Allemagne. Et j'aimerais juste
comme
bien
quoi,
qu'en France...
On peut être patriote à l'intérieur de l'Europe.
Mais personne ne dit l'inverse. Sauf que nous ne défendons pas les intérêts de la France. Nous ne sommes pas patriotes. Nous n'avons pas une politique patriote.
On peut le faire sans sortir de l'Europe, c'est ça la question.
Nous avons une politique qui défend les intérêts allemand. Ça ne m'intéresse pas, moi. Moi, ce que je veux, c'est défendre les intérêts français. Alors, pour répondre quand même, parce que je ne voudrais pas laisser comme ça sans réponse, là encore une fois, je crois, une mesure qui est totalement caricaturée, les droits de douane et les quotas d'importation. Ça existe dans tous les pays, tous. Le Canada, les États-Unis, le Brésil, la Chine.
Ça existe en Europe,
ça existe.
L'Union
européenne ? Non, ça n'existe pas, et vous le savez bien. C'est dérisoire.
L'agriculture, franchement, ils existent.
Donc, il faut quand même être clair. Il s'agit évidemment de mettre des droits de douane ou des quotas d'importation sur les produits qui sont importés et qui sont en concurrence directe avec les nôtres. Pas sur des produits que nous ne fabriquons pas. Ça n'aurait absolument aucun sens. Et dans ce cas-là, je crois qu'il faut, pour faire un plan de réindustrie... Mais c'est déjà une rétorsion de notre part, en quelque sorte, à des droits de douane qui sont appliqués alors que nous n'en appliquons pas. Et en l'occurrence, si vous voulez, le plan de réindustrialisation que j'envisage, il se ferait en accord avec les chefs d'entreprise. Et il s'agirait de mettre en place et de prévoir un plan de mise en place de droits de douane progressifs sur des produits que nous pouvons refabriquer, car c'est ça aussi le but, réindustrialiser notre pays.
Il y a une division du travail à l'échelle internationale, on ne va pas s'amuser à fabriquer des t-shirts qui vont nous coûter 10 fois plus cher que ceux qu'on achète aux Indiens.
Votre village mondial, votre utopie de division du travail est en échec total. C'est un échec total. Vous nous avez vendu ça.
Qu'on achète nos t-shirts bon marché, c'est quand même une aide de pouvoir d'achat des plus pauvres.
Vous vous êtes servi du peuple français comme de cobaye. La réalité, c'est que c'est un échec. Vous vouliez faire de la France un pays de service. Vous aviez juste oublié la réalité de l'économie, à savoir qu'il n'y a pas de service quand il n'y a pas d'industrie. Voilà, c'est une erreur. Et je pense que tous ceux qui ont contribué à cette erreur devraient être décrédibilisés à tout jamais.
Alors, Agnès Benassi-Carré.
Alors, comme vous lisez attentivement les publications du CEPI, vous savez que l'essentiel des importations ne sont pas des biens de consommation finale, mais des intrants pour les entreprises. Les obliger à acheter français leur ferait perdre en réalité de la compétitivité. Et l'autre point, il y a une évaluation qui a été faite sur la mondialisation, pour aller dans le sens de Brice Couturier. La mondialisation pour le pouvoir d'achat, c'est environ un mois de salaire médian.
Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Alors parlons de la compétitivité. Vous parlez de ces fameuses importations qui ne sont pas des produits finis. Je suis d'ailleurs d'accord avec vous, ces chiffres-là ne sont pas contestables. Mais pourquoi on ne les fabrique pas? Parce que je vous signale que dans l'automobile, c'est ce qui s'est passé. Hein, on a ouvert totalement les frontières, on a mis en concurrence tout le monde, on a mis en place un euro qui est extrêmement cher. et qui du coup rend nos entreprises non compétitives. Elles sont donc allées chercher du matériel à l'étranger, matériel qui avant était fabriqué en France. Ben, c'est exactement l'effet inverse que je veux voir mettre en œuvre. Alors moi, ce surcroît de compétitivité, il m'intéresse bien entendu, mais moi je l'obtiens grâce à la monnaie. Car il y a une chose qui est sûre, c'est que, encore une fois, à coût égal, eh bien le même produit fabriqué en zone dollar vaut 1 dollar, et ce même produit fabriqué en France vaut 1,30 $. Je ne vois pas comment on peut être compétitif dans ces conditions. D'ailleurs. Par conséquent, il y a trois manières de récupérer de la compétitivité. La déflation salariale, c'est d'ailleurs ce que dit la Commission européenne, hein, très gentiment, très simplement. La baisse du système de protection sociale ou la dévaluation de la monnaie. Eh bien, moi, je préfère agir sur la monnaie parce que je trouve que baisser les salaires et baisser le système de protection sociale, c'est scandaleux, c'est antisocial, c'est jeter les gens dans la précarité, vous voyez ? Et je pense très honnêtement qu'ainsi, nous récupérerions effectivement avec 20% de dévaluation, 20% de compétitivité, là où on cherche à en obtenir avec 50 milliards du pacte de responsabilité, où on en obtiendra 3 petits pourcents ridicules qui évidemment ne permettront pas à nos entreprises d'être compétitives.
Mais ce sera plus efficace par une baisse de l'euro que par un éclatement de la zone euro.
Non, madame, parce que vous savez bien que la baisse de l'euro, l'Allemagne n'en voudra pas. Et que la BCE est indépendante, que par conséquent, il faudrait que tous les pays d'Europe se mettent d'accord pour demander à ce que la BCE abandonne son indépendance.
Pas du tout.
Mais si, bien sûr, oui. Évidemment, vous le savez. Et que la BCE fasse du quantitative easing. Or, vous savez que la constitution allemande interdit cela. Par conséquent, vous proposez une solution utopique, sachant pertinemment que la solution que vous-même vous proposez entraînera l'explosion de la zone euro.
La quantitative easing n'est pas interdite.
J'aurais reparler un peu de politique et même de philosophie politique, si vous voulez. On est à France Culture après tout. Alors, quand j'ai lu votre programme, je suis tombé sur des expressions qui m'ont vraiment étonné, comme mettre fin au dogme de la concurrence libre et non faussée qui promeut en réalité la loi de la jungle. J'ai cru lire un pamphlet altermondialiste, mais en le lisant et surtout en vous écoutant à l'instant parler de la logique nationale et étatiste, je me suis souvenu de deux slogans. La France seule est politique d'abord. Alors la France seule, c'est un pari sur l'égoïsme national qui ne prend pas évidemment en considération le fait que nos partenaires en Europe en particulier pourraient faire de même que nous. Hein, si on monte nos droits de douane, ils vont en faire autant. Bien entendu, si on dévalue, ils vont en faire autant. Et puis politique d'abord, c'est cette vieille idée maurrassienne qui promet que les lois de l'économie peuvent être pliées par la force de la volonté politique. C'était les deux grands slogans de Charles Maurras dans les années 20 et 30, le dirigeant de l'Action française. Hein, politique d'abord et puis l'égoïsme national. Ces deux slogans, on a vu dans les années 20 et 30 que le programme de Maurras était inapplicable dans le contexte de la France en Europe des années 20 et 30. Est-ce que vous ne croyez pas qu'au début du 21e siècle, entamer la même logique maurrassienne se heurterait fortement à la réalité du monde économique dans lequel nous vivons.
Vous êtes en France qui est d'accord avec M. Valls.
Marine Le Pen.
En l'occurrence, c'est une espèce d'obsession des années 30. Hein. C'est marrant parce que vous vivez avec un rétroviseur comme ça. Bon, écoutez, prenez un rétroviseur qui va moins loin et regardez la politique du général de Gaulle. D'accord, on peut en parler. Il arrive au pouvoir, il fait 40% d'évaluation.
Tout le monde peut se réclamer du grand homme.
Non, non, mais voilà.
Tout le monde le fait, c'est
facile. Mais je veux dire, à la limite, très honnêtement, De Gaulle était le premier à dire qu'il n'a pas à se soumettre à l'économie, qu'il ne s'agissait pas de se soumettre à l'économie, que c'est le politique, évidemment, qui a un pouvoir supérieur à l'économie. Et Dieu merci, d'ailleurs. Permettez-moi, parce que quand on voit ce qui se passe, quand on a donné le pouvoir à l'économie, moi, je préfère effectivement que ce soit la politique et donc la démocratie, cher monsieur.
C'est comme la loi de la physique, on ne peut pas les tordre à volonté.
Être un ultralibéral antidémocrate parce que si le peuple ne peut pas décider pour lui-même, s'il ne peut pas effectivement dans un certain nombre de cas tout en conservant une économie de marché, une libre entreprise,
il y a des lois de l'économie comme il y a des lois de la physique qui peuvent faire voler les gens. Est-ce que ça serait agréable qu'on puisse voler et que la gravité serait des lois insupportables?
Monsieur Moscovici, l'économie n'est pas une science, voyez-vous, car si c'était une science, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est au mieux un art et que manifestement de moins en moins de gens maîtrisent en l'occurrence.
Ignorer les lois en cours de... On fait courir de grands risques au pouvoir d'achat des Français, par exemple.
Vous me dites... Non, c'est l'euro qui fait courir un grand risque au pouvoir d'achat des Français. Parce que le pouvoir d'achat des Français, il s'est effondré depuis que l'euro est arrivé. Car les coûts ont explosé, monsieur. Le pouvoir d'achat, il s'effondre quand on est à 5 millions de chômeurs officiels, ce dont vous n'avez pas l'air, d'ailleurs, que vous n'avez pas l'air de critiquer, ce qui est quand même assez ahurissant. Bon. Vous me parlez des partenaires en Europe, mais monsieur attention aux élections européennes, il y a énormément de pays qui porteront en tête de leurs élections des mouvements qui défendent exactement les mêmes vues que les miennes. Car le patriotisme économique est une revendication des peuples d'Europe. La maîtrise des frontières est une revendication des peuples d'Europe.
Donc la montée des antagonismes nationaux est une perspective que nous devons craindre.
Mais pourquoi des antagonismes, monsieur ? Moi, je suis en très bonne relation avec ces dirigeants de mouvements qui vont demain arriver en tête dans leur pays.
La dévaluation compétitive, vous ne pensez pas qu'ils vont en faire autant ?
Mais monsieur, non, je ne le crois pas. Je crois que les nations peuvent librement, et tout en étant souveraines, parler entre elles, trouver des points d'accord. Ce que je ne veux pas, c'est que ce soit quelques technocrates qui décident pour les peuples. C'est cela que je ne veux pas. Et c'est ça que la Suisse a rappelé lors de ce référendum. Voilà. Et vous êtes en fait le défenseur de l'oligarchie. Et moi, je suis le défenseur ce matin de la démocratie.
Ah oui, écoutez, ça va faire au moins une dépêche AFP. Benoît Bouscarel.
Ouais, parlons un peu de politique et des municipales, tiens, puisque là, il a beaucoup été question en filigrane des élections européennes. Les municipales seront quand même avant, 23 mars et 30 mars. On en est à 150 listes au dernier pointage du Front National dans les villes de plus de 3500 habitants. Ça, c'était mi-janvier. On en est où là aujourd'hui,
monsieur,
combien de listes sont présentées par le Front National ?
Parce qu'on demande ça comme ça au quotidien, au jour le jour, un peu comme les parrainages au
non,
Front
vous
National.
Êtes là, on vous pose la question.
On demande jamais aux autres partis politiques.
Si, on le demande, soyez un tout petit peu.
Non, jamais.
Ah, si. Enfin, nous aussi, mais vous ne nous écoutez pas.
Vous ne demandez jamais aux partis politiques. Ils ont aussi un peu moins de soucis pour les constituer, peut-être.
L'enjeu pour vous est d'autant plus important que vous vouliez 770 listes pour des villes de plus de 1000 habitants.
Le 6 mars,
les dés seront jetés.
Voilà. Et vous verrez que le Front National aura atteint les 500 listes qu'il espérait.
Ah, plus 770. Ah, oui, les 500 quand même, vous y allez. Et à parité, il y aura la parité ?
Bah, c'est obligatoire.
Oui. Parce que, je vous dis ça parce que c'est la journée de la parité aujourd'hui à Radio France.
Non, mais c'est obligatoire. Si on ne peut pas déposer de liste, si la liste n'est pas à parité.
500 listes, non, mais c'est important. C'est une question, Marine Le Pen, qui est quand même importante. Les autres partis n'ont peut-être pas les mêmes problèmes que vous. Vous ambitionnez de devenir au mois de mai le premier parti de France à l'occasion des européennes. Alors 500 listes, c'est peut-être peu. Pas de liste, notamment à Fos-sur-Mer, à Argenteuil, à Montreuil. Est-ce que ce sont des échecs pour vous ?
Je préférerais qu'on ait des listes dans toutes les villes de plus de 9000 habitants. Nous aurons des listes dans la moitié des villes de plus de 9000 habitants. Mais nous venons de zéro. Voilà. Nous avions une centaine de listes en 2008.
En 1995, vous en aviez plus de 500. Voilà. Hein.
Et ben c'est justement ce record que nous aimerions battre. Il n'y avait pas de parité à l'époque, d'ailleurs. Donc c'est vrai moins difficile de constituer des listes, pour tous les partis politiques, d'ailleurs. Donc nous allons, la moitié des électeurs dans ces villes de plus de 9000 habitants auront un candidat Front National et pourront voter pour le Front National. Mais encore une fois, nous partons de zéro. C'est vrai que c'est compliqué. Parce qu'au municipal, il y a une prime
au sortant.
Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'il y a une prime au sortant au municipal, parce qu'il y a des partis qui sont implantés localement depuis des décennies et que par conséquent, quand on lance un processus d'implantation locale, il ne peut pas être à 100% immédiatement, mais qu'il soit déjà.
Ça n'empêche pas les listes
50,
écologistes, les listes d'hiver
déjà...
gauche ou d'hiver droite un peu partout.
Vous savez combien de listes étiquetées écologistes il y aura précisément ?
Est-ce que vous diagnostiquez un problème sur le fait que les gens n'aient pas tellement envie encore d'associer leur nom au Front National officiellement ?
Mais non, monsieur, mais je voudrais que vous compreniez que. Des listes écologistes telles quelles, il y en aura largement moins que des listes Front National. Et c'est la raison pour laquelle ils s'associent au PS. Vous voyez, ils font des listes communes, comme ça leur évite d'être obligés de montrer que justement, ils n'ont pas cette capacité. Nous sommes libres. Nous ne voulons nous soumettre à personne pour pouvoir continuer à défendre nos idées. Alors du coup, ça nous rend la chose un peu plus compliquée, mais je crois qu'honnêtement, passer de 100 à 500 listes en l'espace de 5 ans, c'est spectaculaire. Et vous verrez également que les résultats que feront ces listes, car c'est ça aussi qui est important, seront, je crois, démontreront elles aussi une poussée spectaculaire des résultats par rapport aux dernières municipales.
Une réaction sur la reconnaissance, c'était hier, du vote blanc par le Parlement. Ça a souvent été théorisé, le vote blanc, comme un élément qui permettrait de lutter contre le Front National et ses scores électoraux.
Le vote blanc contre le vote bleu marine ?
Oui, mais je crois que c'est une erreur, parce que ça part de l'analyse que le vote Front National est un vote de contestation et je crois que ceux qui défendent encore cette analyse sont encore dans le passé, car le vote Front National aujourd'hui est un vote d'adhésion, tout le démontre, les partiels le démontrent, les seconds tours le démontrent, et donc tant mieux que le vote blanc existe, mais enfin il ne sera quand même pas comptabilisé, vous avez remarqué ça.
Ça ne sera pas dans les votes exprimés.
Voilà.
On pourrait aller plus loin justement, il faudrait, ou ça ne sert à rien ?
Écoutez, je pense, que, encore une fois, à partir du moment où les votes consistent à partager entre des gens qui défendent des idées, les postes, je ne vois pas bien s'il serait très utile de comptabiliser les votes blancs dans les votes exprimés.
Pourquoi n'avez-vous pas manifesté les deux dimanches de suite de jours de colère ou des manifestations qui étaient contre les projets de loi du gouvernement sur la famille?
Bah parce que je crois que la plus belle manifestation quand on veut changer la politique, c'est d'aller voter. Et que comme je suis la présidente d'un parti politique, j'appelle tous ceux qui sont en désaccord avec la politique actuelle et qui veulent une autre politique à se rendre aux urnes.
Mais certains dans votre parti ont manifesté,
ils sont
assez proches.
Oui, mais personne n'est président du Front National. Donc, si vous voulez...
Mais c'est une manière quoi, de dire, attention, il ne faut pas être débordé par la rue, par votre droite.
Non, mais je ne sais pas de quoi vous parlez, non.
Bah de ce qu'au fond, ils manifestent dans la rue des gens qui pourraient être en accord avec vos idées, mais qui le font savoir plus que vous ne le faites, vous.
Non, mais ça fait un an et demi que je suis extrêmement claire sur ces sujets. Je pense que le gouvernement passe de... C'est extrêmement clair. Je pense que le gouvernement passe de sujet sociétal en sujet sociétal pour éviter de montrer qu'il est totalement impuissant à apporter la moindre réponse aux maux qui frappent notre pays et que l'UMP s'est jeté également dans ces sujets sociétaux parce qu'il veut éviter de montrer qu'il a, sur toutes les grandes orientations économiques et sociales de notre pays, exactement les mêmes solutions que le Parti Socialiste, comme l'a d'ailleurs avoué M. Barouin il y a deux jours.
Mais comment observez-vous, cela dit, vous allez me dire que ce n'est pas la majorité, mais ceux qui se sont déclarés plusieurs fois dans la presse très déçus du Front National, comme les Arnaud Clairet, Nadia Ponto, Benoît Girard, qui s'étaient présentés et voulaient se présenter notamment sur des listes du Rassemblement Bleu Marine, et qui finalement en sont partis en claquant la porte, certains disant, comme Arnaud Clairet, quand on voit Marine Le Pen à la télévision, on ne peut pas imaginer à quoi ressemble l'arrière-boutique.
Monsieur Clairet est pour l'instant victime d'une poursuite en diffamation.
Oui,
numéro un. Numéro deux, qu'il y ait des gens qui arrivent au Front National, qui espèrent des postes ou des places et qui ne les ont pas, qui sont déçus, qui partent en exprimant leur désappointement, bien souvent, plus que leur désapprobation. Mon Dieu, c'est la vie de tous les partis politiques. Hein. Là, je peux vous dire que si vous commencez à ouvrir vos micros à ceux qui ne sont pas contents de la place qu'on leur a accordée, je crains que vous trouviez beaucoup, beaucoup de gens, et beaucoup plus d'ailleurs à l'UMP et au PS qu'au Front National.
Un de vos proches, Frédéric Chatillon, voulait faire interdire le livre d'un journaliste, Vol au-dessus d'un nid de facho, où il était qualifié de néo-nazi. Le tribunal de grande instance de Paris a estimé que cette procédure ne relevait pas du référé. Ainsi, le livre n'est pas interdit.
Ça,
il ne consiste
info,
pas
hein.
de troubles. Mais la question que demande au fond l'avocat, c'est de dire au fond, est-ce que vous assumez vous la présence d'un tel personnage dans votre entourage, ou est-ce que vous décidez de rompre avec lui?
Écoutez, monsieur, vous êtes gentil. Mais monsieur Chatillon est un fournisseur du Front National. Il engage une procédure au fond en référé. Il a échoué à faire interdire ce livre. C'est son problème, si vous voulez. C'est lui qui est injurié dans ce livre. Donc il va poursuivre ce journaliste au fond. Je ne vois pas très bien quel est le rapport avec moi, quoi.
Mais c'est que c'est un proche.
Non, c'est un fournisseur du Front National. Parce que si vous voulez, honnêtement, que je m'insère dans la vie personnelle...
Vous n'avez pas de fournisseur qui soit contre vous, quand même.
Vous
prenez des gens qui sont plutôt...
Non mais d'accord, mais enfin, est-ce que, honnêtement, vous poseriez une question telle que celle-là, n'importe qui
d'autre? Mais bien sûr, je vous...
Mais vous plaisantez,
enfin bon. Mais bien sûr que non.
Non mais écoutez, c'est dérisoire. Mais ça me rassure, parce que je me dis que si on en est à ce niveau microscopique d'intérêt, c'est que probablement, effectivement, la montée du Front National gêne et qu'on n'a pas beaucoup d'arguments de fond à lui opposer.
Ah ben si, voilà. Sinon, on a juste à savoir, on n'a pas d'argument, c'est juste que
on pose des questions. Les bibliothèques et les médiathèques de France, oui, rapidement, les bibliothèques reçoivent en ce moment quelques appels, des courriers, des mails qui leur demandent de retirer certains livres qui seraient moralement néfastes, des livres en fait sur l'égalité entre les filles et les garçons. Est-ce que vous soutenez cette démarche, Marine Le Pen? Est-ce qu'il y aurait de mauvais livres qu'il faudrait retirer des médiathèques?
Non, moi je ne soutiens pas du tout cette démarche. Je pense que dans les bibliothèques, il manque des livres plutôt qu'il y en a trop, voyez-vous ce que je veux dire? Et donc je suis pour que les bibliothèques soient ouvertes au plus grand nombre de livres, au plus grand nombre de thèses, de sensibilités, etc. Parce que moi je crois à l'intelligence des Français et je crois qu'ils sont largement assez intelligents pour se faire une opinion eux-mêmes. Voilà.
C'est la journée, vous le savez, d'égalité femmes-hommes sur Radio France aujourd'hui. On cherche une femme pour le Panthéon. Qui vous voulez-vous Marine Le Pen, Olympe de Gouges, Germaine Tillion, Louise Michel, Simone de Beauvoir, Lucie Aubrac, Simone Veil, Georges Sand, Sœur Emmanuel,
Joséphine Baker.
Olympe de Gouges, ça m'irait bien, moi. Ça m'irait bien. Vous savez que Olympe de Gouges, elle est extraordinaire. C'est la première qui a inventé l'affiche politique. Elle écrivait à la main des affiches qu'elle allait coller sur les murs. C'est l'inventeur de l'affichage en politique. Voilà. Je trouve que c'était une femme extrêmement courageuse et pour laquelle, à titre personnel, j'ai beaucoup d'admiration.
Régis Debray avait annoncé ici, lui, qu'il votait pour Joséphine Baker.
Deux amours.